Pour cette première table ronde, on va parler donc circularité et futur de la mode. Et donc, en attendant que Sakina, Hamza se connectent, je vais vous présenter nos trois intervenantes qui sont ici avec nous et qui représentent le collectif Upcycling Connection. On va accueillir Sakina. Bonjour Sakina.
Bonjour.
Salut. On t'entend très bien et voilà, tu me vois pas, mais je te fais coucou depuis la scène là. Voilà, tu as face à toi une centaine d'étudiants du lycée Aristide Mayol et d'autres lycées de la région, enfin lycées ou autres formations. Et sur scène, nous avons avec toi trois représentants d'un collectif qui s'appelle le collectif Upcycling Connection, à qui je vais donner la parole dans un premier temps. Donc l'idée, c'était de vous présenter deux initiatives un peu différentes. Sakina, qui est avec nous en ligne, est designer et a lancé une première collection à la dernière Fashion Week avec des tissus upcyclés, une collection magnifique. Donc elle va nous raconter son expérience de designer. Et puis pour commencer cette table ronde, j'ai à ma droite, alors Lila, je suis désolée, je n'ai plus les noms de famille sur mes notes. Donc toi, tu fais du modélisme et de la mode, et donc tu travailles plutôt la question de l'upcycling des vêtements dans le cadre de ce collectif. Donc vous êtes un collectif basé à Montpellier. Ensuite, à côté de toi, il y a Laetitia. Donc toi, tu es graphiste et tu fais des bijoux que tu portes très joliment aux oreilles à partir de vinyle. Et tu as aussi une de tes créations ici, Lila. Et puis, au bout de la table, Alice, toi, tu es artisane. Tu travailles notamment la céramique, mais aussi plein d'autres choses. Et vous avez décidé de créer ce collectif à Montpellier qui s'appelle le collectif Upcycling Connection. J'ai une question très simple. Vous avez trois parcours tout à fait différents. Déjà, D'où venez-vous ? Quel est votre parcours ? Quelle est votre matière ? Et pourquoi vous avez décidé de fonder à Montpellier ce collectif ? Pour quel objectif, en fait ? Donc, je vous laisse la parole.
Alors, bonjour. Moi, je m'appelle Lila. Du coup, j'ai 22 ans et ça fait à peu près un an et demi que je fais ça. Donc, j'ai mon entreprise en upcycling. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours et ce que je fais aujourd'hui. Donc, après le bac, j'ai décidé de faire un BTS métier de la mode et du vêtement. Donc, je l'ai fait à Nîmes, au lycée Ernest Hemingway. Et c'est vrai que c'était hyper intéressant parce que c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. C'était la seule chose qui m'intéressait. Et donc, c'était trop chouette. J'ai appris à être modéliste. Et à la sortie de BTS, je me suis dit que c'est pas vraiment ce que j'avais envie de faire. J'avais pas envie d'être modéliste industrielle. J'avais vraiment envie de creuser dans l'artisanat. Et du coup, c'est comme ça que j'ai lancé mon entreprise. Donc, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Lulabi Upcycling et dans laquelle je crée du coup des vêtements upcyclés à partir principalement de t-shirts. Donc, pendant le process de l'immatriculation de mon entreprise, j'ai rencontré le collectif Upcycling Connection. Donc, c'est pas moi qui l'ai fondé. Mais je les ai rencontrés et c'était trop bien parce que, en fait, moi, si j'ai lancé mon entreprise, c'est parce que j'aime travailler aussi seule. Mais être auto-entrepreneur, c'est aussi être vraiment confronté à sa solitude à 100% et se retrouver avec plein de métiers différents sur les bras qu'on n'a pas, on ne s'attendait pas à faire. En fait, quand tu veux être artisan, artisan, mais il faut aussi être vendeur, il faut aussi être comptable, il faut aussi être chargé de com, et tout ça c'est des trucs qu'on sait pas forcément faire. Et du coup, rencontrer un collectif de gens qui font la même chose et qui ont les mêmes valeurs éthiques, c'était vraiment trop bien parce que on se complète beaucoup, on se conseille, et c'était vraiment chouette. À travers le collectif, j'ai aussi découvert plusieurs disciplines de l'upcycling que je connaissais pas du tout. Moi, j'ai toujours fait de la couture et je savais pas qu'il y avait d'autres choses qu'on pouvait faire comme des bijoux, de la déco, de l'upcycling de meubles, tout ça je connaissais pas et c'était hyper enrichissant d'apprendre autant de choses. Ça m'a aussi permis de voir que en collectif on peut vraiment faire des grandes choses quand on est plusieurs parce qu'encore une fois moi de base j'étais très solitaire mais je me suis rendu compte qu'à plusieurs on a vraiment une grande force. Par exemple, on a organisé des événements, on a organisé un défilé de rue à Montpellier en 2024. Et en juin 2025, on a organisé toute une semaine de la mode éthique, pareil à Montpellier, avec plein d'événements. Et donc c'est trop chouette parce qu'aujourd'hui, être dans Upcycling Connection, ça représente faire beaucoup de sensibilisation et aussi se soutenir les unes les autres entre créatrices d'Upcycling. Donc voilà, aujourd'hui ce que je fais, ça m'épanouit de ouf, je suis trop contente et je peux dire que après un an et demi d'activité, je commence un tout petit peu à pouvoir en vivre. Et c'est trop chouette parce que je suis avec un collectif de dingue, avec des filles trop cool qui sont hyper encourageantes. Et voilà, je les remercie.
Ça donne envie de venir rejoindre le collectif. Je passais devant. Ouais, vous pouvez. Bon, c'était juste qu'on a quelques photos de vos ouvrages à présenter. Mais comme on est en ligne, on les diffusera tout à l'heure pour vous montrer un peu leurs travaux. Alice ?
Bah bonjour à tous, moi je m'appelle Alice, du coup je suis artisane créatrice et anciennement attachée de recherche clinique dans l'industrie pharmaceutique, donc j'ai complètement changé en fait de domaine d'activité. Donc moi j'ai rejoint le collectif en 2024 et je suis en train de créer du coup ma maison d'artisanat. Je suis voilà, c'est un peu les prémices. Je suis en phase de recherche et du coup j'exprime ma créativité à travers plusieurs médiums. Donc différentes matières, je fais de l'illustration de mode sur d'anciens magazines des années 40-50, je fais aussi des tableaux où je vais créer des portraits 3D, donc je vais chiner des tissus, je vais chiner des cheveux aussi, enfin je colle plein de choses et tout ça. Du coup je touche aussi à la céramique, voilà, donc pour la céramique en fait je viens habiller mes céramiques avec des fils en métal que j'aurais surcyclés, des anciens Scooby-Doo, des anciens élastiques et puis même aussi des filets de pêche, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer, surtout avec les filets de pêche parce que c'est c'est une grosse problématique aussi dans les océans et j'aimerais faire passer un message par le biais de mes créations. Et je touche au textile. Et du coup, c'est par le textile en fait que j'ai commencé à mettre un pied dans l'artisanat, beaucoup plus concrètement. Et en fait, j'avais envie d'apprendre un savoir-faire. J'ai toujours eu une affinité avec le textile. J'ai toujours aimé le style, le vêtement, l'esthétisme du vêtement. Et j'ai passé un CAP, donc le CAP métier de la mode, vêtements flous, en 2023. Et pendant cette année, j'ai aussi participé à un concours de créateurs de mode, du coup, lors du festival de fil en aiguille à Montpellier. Et alors, il n'y a pas les photos pour le moment. Non, vous les montrerez tout à l'heure.
On va les montrer tout à l'heure.
Et du coup, pendant ce concours, donc j'ai participé à ce concours avec deux autres collègues. C'était mes profs de couture. Et on a gagné le prix du public. Donc moi, j'étais, j'étais hyper fière. Voilà, c'était mon premier défilé. Et puis, j'étais étudiante en couture. Donc ça m'a donné un énorme boost. Et on avait, pour nous, ce qui était hyper important, c'était la dimension écologique. Donc on a mis vraiment un pied d'honneur à utiliser des matières upcyclées. Des anciens rideaux, des anciens voilages d'IKEA, par exemple. Et voilà. Et donc c'était une super expérience pour moi. Et en fait, le fait de participer à un concours comme ça, c'est hyper challengeant. Moi, ça m'a challengée, ça stimule la créativité, ça permet de développer sa technique aussi, ça permet d'affirmer un style, de se confronter au regard et aux critiques des autres, et puis s'amuser, participer à un show, il y a de l'adrénaline, c'est sympa, et voilà, c'est... Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un peu comme une consécration, parce que voilà, on travaille pendant plusieurs mois, et puis... Voilà, il y a le final et on voit nos créations, on montre nos créations en fait aux autres et j'ai trouvé que c'était super, super chouette quoi. Donc une super expérience. Et ça m'a donné un boost en fait de confiance en soi, surtout qu'à la base voilà, je ne savais absolument pas coudre avant de faire ce CAP. Je savais juste que je voulais apprendre un savoir-faire dans le textile. Et voilà, je me suis dit qu'il fallait rester dans ce secteur et surtout avec ces valeurs éthiques-là. Et du coup, en commençant en fait mon activité de créatrice, J'avais envie de me rapprocher d'un groupe, en fait. Donc j'ai cherché, en fait, sur Montpellier, voilà, est-ce qu'il existait un collectif de créateurs qui faisaient de l'upcycling. Et j'en ai trouvé un. Donc c'est pas moi qui ai créé, du coup, ce collectif. Et du coup, je suis rentrée dans ce collectif en 2024. Et du coup, c'est hyper rassurant, en fait, de rencontrer des personnes qui ont les mêmes valeurs que soi. On se sent comprise, on parle le même langage, les choses sont beaucoup plus fluides, et puis on est là pour s'entraider, on peut participer à des événements auxquels on n'aurait pas eu l'occasion de faire si on était seul dans son coin. Et du coup, cette année, j'ai participé à l'organisation de l'UPCO Fashion Week, dont parlait Lila tout à l'heure. On a créé un volet un peu pédagogique, on a créé des panneaux pour sensibiliser le public aux méfaits de la fast fashion, pour parler de la problématique environnementale et sociétale, essayer de réfléchir à des solutions pour pallier, en fait, résoudre un peu ce problème, de fast fashion. J'ai aussi exposé mes créations, mes céramiques, mes tableaux. C'était une super occasion. C'est un tremplin, en fait, le fait d'être dans un collectif comme celui-là. Voilà.
Merci beaucoup. Et hier, ça t'aurait plu parce qu'on avait Sao Textile qui recycle des filets de pêche. Et donc, dans les ateliers, je ne sais pas s'il en reste aujourd'hui, mais il y avait d'énormes filets de pêche aussi.
Bon, mais moi, je tiens à dire que je suis assez impressionnée. Ne m'en veuillez pas si je lis ou si je bégaye. Soyez indulgents. Moi, je m'appelle Laetitia, j'ai 46 ans. Je suis maman de deux grandes filles qui ont 17 ans et 21 ans. Et bon, comme le disait tout à l'heure mademoiselle, je suis graphiste de métier et en parallèle, j'ai créé un concept de bijoux et d'accessoires du coup que je fabrique à partir de vieux disques vinyles en fait qu'on ne peut plus écouter. Donc concrètement, ça reste du déchet et du déchet assez polluant. J'ai décidé d'apporter une réponse créative à ce problème de déchet. Et en parallèle de la parallèle, je me retrouve présidente maintenant de ce fameux collectif Upcycling Connection. C'était pas prévu dans mes projets, mais j'en suis ravie. Moi, j'ai commencé mon projet de bijoux en 2023, dans un moment de ma vie où c'était franchement le chaos. Entre les décès, les chamboulements personnels, professionnels, il n'y avait plus rien qui allait. Et en fait, ce qui m'a permis de rester debout et qui m'a clairement sauvée, c'est la musique et la création. Il n'y a jamais de hasard dans la vie, mais là, les hasards de la vie ont fait que pendant que j'étais en train de créer mes bijoux dans mon atelier, une de mes voisines que j'avais jamais vue est venue me parler d'un collectif de créateurs qui était en train de se créer sur Montpellier, et donc le fameux Upcycling Connection. Et là, on est en décembre 2023. Donc upcycling, moi j'avais jamais entendu parler de ça, c'est un mot qu'elle pose dans mes oreilles, et on discute un petit peu du concept. Elle m'explique en quoi ça consiste, et elle m'explique que donc, c'est un collectif qui cherche à réunir des créateurs qui sont tous donc, pour le moment sur Montpellier, mais qui ont l'envie de fédérer autour de ce sujet commun qui est l'upcycling et de sensibiliser le grand public. Au fil de la conversation, je réalise que tout ce qu'elle vient de m'expliquer, ça coche beaucoup de cases de ma liste de rêves. Parce que j'avais fait une liste de rêves, en fait, et créer, ça faisait vraiment partie, c'était essentiel. Donc, et je me rends compte aussi que ça fait écho à tout ce qui est important pour moi, et ça vient me chercher clairement dans mes valeurs. Au fil du temps, je développe ma marque, donc Création, et je m'implique de plus en plus dans la vie du collectif. Je rencontre des gens, comme le disaient les filles, qui partagent des valeurs similaires. Et donc, moi, je rejoins le collectif en 2024. Je ne l'ai pas fondé non plus, mais on s'est tout de suite senti dans quelque chose qui était familier, en fait. Et depuis mai 2025, je me retrouve à la présidence de cette association et ça me met vraiment en joie. Moi, ce que j'aime et ce pourquoi je me suis investie à fond dans cette aventure associative, c'est que je ressens la force de l'équipe. Travailler seule, c'est quelque chose que je connais depuis toujours, de par mon métier. Je fais ça depuis des années. Mais là, mon activité de créatrice, c'était tout nouveau. Et c'était une façon de se mettre à nu, en fait. Quand on montre ses créations, on ne peut pas faire semblant. On est obligé d'être sincère. Et ça, du coup, je trouvais que c'était assez difficile se mettre à poil devant tout le monde et présenter ce qu'on a à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Je trouve que c'était pas facile. Et le fait de se retrouver dans le collectif, c'est quelque chose qui m'a beaucoup portée. Moi, ce que j'ai trouvé aussi dans le collectif, c'est la notion d'équipe, de partage, de co-création, même sur certains projets, le plaisir de réfléchir, de réaliser et d'œuvrer ensemble. Quelque chose qui est important pour moi, c'est que dans le collectif, on se soutient quand on doute, on s'encourage. Oh, je tremble. On s'encourage quand on essaye, on se félicite quand on réussit et on se relève aussi même quand on tombe, parce que des fois, ça arrive. À ce jour, nous sommes 10 dans le collectif. Certains partent, d'autres arrivent au gré des projets personnels de chacun. C'est vivant, c'est humain et c'est riche. Nous avons des envies par milliers. Je vous laisse imaginer un groupe de créateurs limite hyperactifs sur les bords. Ça fuse dans tous les sens. Et c'est ça qui est bien. Du coup, ça nous donne des idées toutes les 3 minutes et on essaye d'en concrétiser le plus possible. Nous, notre volonté, c'est de rassembler les créateurs pour se soutenir et partager des compétences et des savoirs. Nous avons également la volonté de rencontrer le public et au travers de nos créations, le sensibiliser à une autre façon de consommer. Consommer moins, mais mieux. Là où depuis des générations, la consommation est un signe extérieur de richesse, nous avons la volonté qu'elle devienne un signe intérieur et extérieur de sagesse. On peut et on doit mettre de la conscience dans notre façon de consommer. Pour cela, on participe à des événements comme des marchés de créateurs, bien sûr. Hein, ça fait partie des partages entre nous de se donner les bons plans, mais pas que. Comme vous l'ont dit les filles, on a organisé des défilés, notamment en juin dernier, l'UPCO Fashion Week, qui était une semaine et qui était dédiée à la slow fashion, en partenariat avec des boutiques actrices de la slow fashion sur Montpellier, donc qui sont des friperies, des ressourceries, des choses comme ça. Et l'idée, c'était vraiment de mettre en avant tous ces acteurs-là au travers de différents événements. Donc on a commencé par un gros défilé dans une des rues très passantes de Montpellier. Et ça nous a demandé beaucoup d'agilité en termes d'organisation. Mais en vrai, c'était un vrai kiff et un vrai moment de partage avec les gens dans la rue. On a pu présenter avec... voilà, ça, les images que vous voyez, c'était le défilé de rue qui avait été fait en 2024. Et défilé sauvage en fait. On est parti d'un point A à un point B, on a fait un petit peu le tour de Montpellier et tout le monde a présenté un petit peu ses créations. C'était vraiment très, très sympa à vivre. Donc nos objectifs dans le collectif, c'est toujours fédérer, sensibiliser et transmettre. Et pour cela, nous voudrions aussi organiser des ateliers pour faire de la pédagogie concrète en intervenant auprès du grand public, des entreprises et pourquoi pas un jour dans des structures en lien avec les enfants, les ados, les plus grands. Enfin, on a envie de dire qu'on transmet aussi. Le collectif s'appelle Upcycling Connection. Créer du lien et faire des connexions, c'est un peu l'ADN de l'association. Et à l'avenir, nous souhaiterions aussi créer du lien entre le grand public et les acteurs qui œuvrent à une échelle différente encore. Car l'entreprise et l'industrie ont un rôle majeur à jouer dans la notion de circularité. Nous nous sentons vraiment très honorés et franchement impressionnés d'avoir été invités pour venir témoigner devant vous de nos aspirations, nos rêves et nos envies, car en fait, vous êtes l'avenir. Et c'est important pour nous de vous dire qu'on peut y arriver, en fait. Tout n'est pas forcément tout noir, on peut y arriver en étant tous ensemble, et surtout, il ne faut pas oublier de rêver et de créer, c'est essentiel. Merci.
Merci, merci beaucoup à toutes les trois. Donc vous nous avez expliqué, donc à la fois vous regroupez finalement différents designers, créateurs, mais vous avez aussi une fonction d'éducation finalement citoyenne, parce que tu parlais tout à l'heure, vous avez presque fait un happening finalement avec ce défilé un peu sauvage là dans les rues. Donc à la fois l'idée c'est d'accompagner les créateurs et donc en offrant un espace, comme vous disiez très bien, où on peut échanger les idées, mais aussi partager peut-être les questions de com, de je sais pas, de diffusion. Et à la fois vous avez un aspect de sensibilisation finalement citoyenne. Est-ce que ça c'est peut-être vous nous en dire un petit peu plus, et est-ce qu'on peut récupérer le micro, c'est Louise peut-être qui a, ouais s'il te plaît, pour peut-être nous redire un peu, vous êtes au croisement des deux, c'est-à-dire que voilà, entre les designers intègres et à la fois vous cherchez à mobiliser, à sensibiliser.
Bah, on est un petit peu couteau suisse sur le coup. On essaye de mettre en avant nos créations, bien sûr. Mais oui, comme je te disais, on essaye de sensibiliser. Et voilà, notamment, par exemple, avec l'UPCO Fashion Week qu'on a fait l'été dernier, on a créé des supports et on essaye de les embarquer avec nous chaque fois qu'on fait un événement pour dire qu'on attire l'attention et qu'on crée la discussion, en fait, avec les gens qui sont là. Donc, autant il va y avoir du public qui va être déjà concerné par le sujet, autant il va y avoir des gens qui n'en ont jamais entendu parler. Et l'upcycling, c'est un mot à la mode, mais il ne faut pas oublier que ça vient du surcyclage. Il y a des gens qui ont besoin qu'on remette le contexte en français aussi. Et expliquer la différence entre recyclage et surcyclage, expliquer comment ça peut se concrétiser dans la vie de tous les jours et pas forcément en étant dans de la création hyper pointue. Ça peut être aussi avec de la broderie, de la réparation, des assemblages, apprendre à utiliser les outils. Donc oui, on essaye de faire de la sensibilisation, de la pédagogie, et de créer surtout l'ouverture et le dialogue. Il y a bien des gens qui ne sont pas du tout conscients. C'est vrai qu'on a mis l'accent un peu fort sur la fast fashion et les problèmes liés à la fast fashion, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de l'impact parce que c'est tellement loin de nous. Ça se passe dans d'autres pays, c'est d'autres familles, c'est d'autres gens qui sont concernés. Nous, on voit juste que dans notre porte-monnaie, ben, c'est pas cher, donc on y va. Et c'est une fausse solution. Donc ouvrir le dialogue et le débat et montrer des solutions concrètes, oui, ça fait partie des choses qui nous semblent importantes. Et nous, on essaie en tout cas d'œuvrer à notre petit niveau comme ça. On va commencer comme ça, mais un jour, on va changer le monde.
C'est sûr, et vous n'êtes pas seul en plus, vous serez pas seul. En tout cas, c'est le premier collectif sur Montpellier, j'ai cru comprendre en regardant en faisant des recherches. La même manière que pour Sakina, voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser donc sur voilà nos trois designeuses, je vais dire comme ça, sur les différentes techniques utilisées, sur l'action en collectif, sur ce que vous souhaitez. Est-ce que vous avez des questions? Donc on a voilà broderie, upcycling, céramique et des bijoux à partir de vinyle. Je ne sais pas s'il y a des questions techniques qui peuvent se poser pour vous qui travaillez plutôt le textile, peut-être. Oui.
Comment on peut vous soutenir à notre échelle?
Déjà, vous pouvez suivre l'actualité sur les réseaux. Sur Instagram, notamment avec le Upcycling Connection. Et ensuite, vu qu'on est une association, comme toutes les associations, on a besoin de sous. Donc on a une page Hello Asso aussi qui est ouverte pour faire des dons, si vous avez envie de soutenir financièrement. Mais il n'y a pas que ça. Quand on a fait l'UPCO Fashion Week l'année dernière, par exemple, on a eu besoin de bénévoles. Parce qu'il y a besoin de bras pour un événement comme ça. Il y a toute l'organisation qu'on peut faire en amont et sur laquelle on s'est toutes et tous très investis. Et puis le jour J, il y a besoin de gens pour dire qu'on installe le tapis rouge, la moquette, qu'on installe les chaises, qu'on guide les gens, qu'on aide à habiller, à faire une retouche, à faire un peu de maquillage, même s'il y a les maquilleurs et les coiffeuses et tout ça qui sont aussi bénévoles. On peut avoir aussi par moments besoin de petites mains pour aider sur des événements comme ça, et ça fait de l'expérience pour tout le monde. Et même pour nous, ça a été une expérience humaine de dire qu'on se retrouvait à driver une équipe de... On a été 40 personnes à participer à l'organisation. C'était dingo. Enfin, on n'était pas prêtes à ça, c'était génial.
Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une petite question sur les matériaux. En fait, les matières, on est en train de parler d'upcycling, de ne pas produire de nouvelles matières. Chacune, toutes les trois à vos niveaux, comment vous procédez? Est-ce que vous allez récupérer de la matière? Est-ce que vous utilisez de nouvelles? Donc, toi, tu parlais de la question de la céramique. Est-ce que donc tu veux dire que tu fabriques? Est-ce que tu travailles ensuite ou tu interviens sur des céramiques existantes? Comment ça fonctionne pour les disques? Et de la même manière, toi, Lila, je ne sais pas qui veut commencer pour la question de la broderie.
Donc moi, je récupère principalement marché aux puces, vide-grenier, tout ça. Là, derrière, il y a un gros travail après de lessive. Et après ça, en fait, moi, j'ai toujours, en fait, j'ai plein d'idées dans ma tête, mais moi, mon but principal, c'était de prendre, du coup, principalement des t-shirts, donc de la maille, et en fait, des t-shirts, bah, comme dit Laetitia, qui manquent plus à personne, donc avec des trous, des taches, des trucs vraiment, vraiment moches, et de les transformer en pièces trop cool en camouflant les trous, en faisant des découpes. Moi, je travaille beaucoup avec la surjeteuse à l'extérieur, donc en faisant des surjets apparents, des trucs comme ça. Et donc voilà, moi, ce que je fais, ça part de ma tête, et après, je vais chiner les matières. Mais la plupart du temps, c'est des t-shirts, et en fait, il y en a tellement en seconde main que c'est vraiment pas compliqué à trouver.
Voilà. Est-ce que Louise, est-ce qu'on peut avoir un autre micro ? Est-ce que c'est une matière, il y a beaucoup de matières, notamment t-shirts qui viennent de la fast fashion justement, et est-ce que tu n'as pas de mal à trouver un t-shirt que tu puisses réexploiter, qui soit réutilisable ? Est-ce qu'on trouve encore de bons t-shirts qu'on puisse, sur lesquels on puisse travailler ?
Alors oui, il y en a pas mal encore, et au niveau des t-shirts de fast fashion, en fait, moi, la plupart du temps, je regarde surtout la matière au toucher, parce que j'ai appris à reconnaître les matières qui vont se trouer plus facilement, etc. Et du coup, bah, moi, je choisis vraiment en fonction du toucher, et donc voilà, je chine que en présentiel. Et oui, du coup, pour le coup, en fast fashion, il y a encore des matières qui sont, je trouve, réutilisables. Pas toutes après, mais oui.
Oui, fast fashion ou en seconde main, en tout cas. Ok, très bien.
Oui, du coup, alors moi, je fabrique mes céramiques d'une manière artisanale. Voilà, avec bon, la terre, bah, ça aussi... On recycle aussi la terre, en fait, dans le travail de la céramique. Voilà, par exemple, la terre, elle peut durcir et on va faire en sorte, en fait, voilà, de l'humidifier, de la réutiliser pour d'autres créations. Mais pour la partie principalement upcycling, bah, par exemple, des filets de pêche, bah, moi, je suis allée sur les ports à 7. je suis allée un peu au culot, quoi. Je vais demander aux personnes qui travaillent là-bas si ils n'ont pas des filets de pêche qu'ils réutilisent pas. Je suis même allée à Aix-en-Provence dans une association en fait qui récupère les filets de pêche, donc qui les nettoie. Et donc voilà, ils m'en ont donné quelques-uns, mais par exemple, on peut aller directement dans les associations qui font du clean-up sur les plages, et voilà, ils ont plein de matériaux qu'on pourrait utiliser. Et puis pareil pour la partie textile, ça va être dans les puces, dans les ressourceries, chez des grands-mères, voilà, dans les vides maisons. C'est vrai, on trouve plein de choses. Voilà, ça va être des formes un peu désuètes, et puis on va leur redonner une forme un peu plus moderne, on va couper. Enfin, voilà, il y a énormément de matières en circulation. En fait, c'est un travail de recherche. Et moi, j'adore, en fait, ça, aller chercher. Il y a une curiosité aussi. On est content quand on trouve, en fait, ce qu'on avait en tête. Et puis, on rencontre plein de gens aussi. Et voilà, c'est, on est chercheurs, en fait, quand on travaille dans l'upcycling, je dirais.
Alors, et toi ?
Alors, moi, pour trouver des vinyles, ben, je suis passionnée de musique. Donc, j'ai pas mal de copains qui sont aussi passionnés de musique et qui ont des vinyles dans leur... dans leur grenier, et pour peu qu'ils soient voilés, un petit peu rayés, on ne peut plus les écouter. Du coup, ils savent que moi, je récupère. Mais ça ne m'empêche pas aussi d'aller en chercher à Emmaüs, en ressourcerie, aux puces. Et je dirais que autant des fois, on peut partir avec une idée très précise de ce qu'on va vouloir faire, et autant des fois, c'est en voyant l'objet, en voyant la matière, qui ça va susciter une idée, c'est une forme, une couleur qui va faire germer aussi la créativité, quoi. Donc, mais voilà, non, le vinyle, je suis assez contente, j'ai pas trop de mal à trouver aussi.
Et tu as des beaucoup de matériel ou pas pour comment tu découpes tes vinyles ou comment tu les travailles ?
Ça, si je te le dis, je devrais te tuer après.
Ah, donc mince, je te c'est le secret pas. De fabrication. Bon, attendons la prochaine conférence alors.
Mais oui, non, j'ai fabriqué mon outil. Je trouvais
d'accord.
pas.
Okay.
Je trouvais okay. pas de solution qui était adaptée à ce que je voulais oui. faire.
J'imagine qu'il y a un besoin.
Je me dis que quand la solution n'existe pas, il faut la créer de façon okay. générale dans la vie. Donc bah, j'ai créé mon outil.
Ok, très bien. Oui, il y a une question par là. Non, cet après-midi, on a les quatre designers textiles, mais pas. Mais alors, vous serez peut-être là au début des ateliers, en observatrice.
On va essayer d'être là, voilà, au début, mais après, on est attendu en fin d'après-midi sur Montpellier, donc il faut qu'on a le temps
que
de trajet.
Mais bon, vous pourrez sûrement échanger évidemment les contacts. Il y a une autre question, Louise. Tu peux prendre les micros. Oui, parce qu'en fait, on a besoin pour l'enregistrement. C'est pour ça qu'on vous demande les micros.
On n'a pas de lieu attitré. Avant, on avait un atelier partagé au altropisme sur Montpellier. Et en fait, maintenant, on s'en détache un petit peu. Et on a chacune nos ateliers, mais on essaye quand même de se retrouver très régulièrement pour échanger, pour partager tout ce qu'on s'est dit, donc soit chez les unes et les autres, soit dans des lieux dans lesquels on a déjà fait des événements. Mais voilà, on n'a pas de lieu de création commun attitré. Après, on a des partenariats avec des entreprises, une entreprise sur Montpellier, notamment les ateliers ADI, qui vendent des machines à coudre, du matériel, tout ça. Et ils nous prêtent, eux, leurs ateliers pour qu'on puisse utiliser les machines et soit se regrouper, soit nous-mêmes faire des ateliers. Mais ce n'est pas à proprement parler à Upcycling Connection. Alors, est-ce qu'on fait des ateliers pour le grand public? C'est le projet. On essaye de les mettre en place. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les dates que je vous ai dites tout à l'heure, en fait, le collectif a été créé en 2024. On est encore tout bébé. Donc, il y a plein de choses qu'on est en train de mettre en place. Et les ateliers, oui, c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de faire. Pour essayer justement de sensibiliser ou de transmettre, ne serait-ce que de transmettre. Lila, elle est toute jeune, mais elle a un savoir-faire incroyable. Là, récemment, on a fabriqué des pochettes d'ordinateurs pour un événement pour la ville de Montpellier, pour la Biennale Euro-Africa. Elle a été notre chef de projet, mais au top, en fait. Elle a rondement mené l'affaire, elle a mené l'équipe, ça s'est super bien passé. Enfin, ça a permis de révéler justement aussi des talents chez les unes, chez les autres. Et je me suis perdue en route. Est-ce qu'on fait des ateliers? Oui, à terme, oui, c'est ce qu'on aimerait faire. Et on a les ressources humaines, justement, pour faire ça bien.
Je peux? Ça y est. Alors, allô, allô? Ok, c'est bon. C'est une question un peu bizarre. Mais en fait, vous prenez des déchets, vous faites des créations avec, mais est-ce que, du coup, avec les déchets que vous avez pris et les créations que vous avez faites, vous produisez des déchets? Genre, est-ce que vous produisez des déchets et des déchets?
C'est des petits déchets. C'est des petits déchets. Petit. Il en reste toujours. Mais ces déchets qu'on utilise, bon, bah, en fait, voilà, ils ne sont pas dans la nature, tu vois. Donc, et on fait attention, par exemple, aux petits déchets qu'on va produire, à ce que ça ne soit pas mis dehors comme ça, tu vois. Si c'est du textile, ça peut partir dans des entreprises qui vont réutiliser ce textile, par exemple, pour créer des briques, tu vois, pour faire des isolants dans les maisons et tout ça. Donc, on essaye de faire en sorte que les petits déchets qu'on va produire, soient réutilisés à bon escient.
Tout à l'heure, je parlais de l'ADN du collectif qui était de faire du lien et de la connexion. En fait, justement, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire que ce soit nos déchets ou les choses qu'on a récupérées, on essaye de les mettre en commun pour se les partager. Mais on essaye aussi de dire qu'une fois qu'on se dit « bon, mais ça ne nous intéresse pas, on ne va pas stocker comme... des petites fourmis, on va essayer de le faire circuler, justement. Et ce qu'on aimerait faire, ça c'est dans les projets aussi de quand on va être un petit peu plus grande, c'est de dire qu'on va se mettre en lien avec des entreprises, avec d'autres associations qui interviennent dans une partie après, qui va être justement de transformer soit les déchets, soit les trucs, vraiment on peut rien en faire, on va le transformer en isolant, en matériaux de construction, en recyclage, d'essayer d'être un acteur prenante de le, ça se dit, un acteur prenant, un acteur, un véritable acteur de la circularité, justement, de dire que nos déchets ou les choses dont on ne se sert pas, ça va avoir quand même vraiment, ça va être mis dans les mains de personnes qui vont savoir quoi en faire et pas lâcher dans la nature, dans une benne où on ne sait pas où ça va aller, quoi.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une toute dernière question ? Sinon, on va conclure la table ronde. Alors, une petite dernière.
Alors, bonjour. De ce que j'ai compris, votre association, c'est plus pour les créateurs, pour vous réunir et pouvoir agrandir votre activité. Mais est-ce qu'on peut adhérer, par exemple, si on veut être au courant et potentiellement participer à des événements avec vous ?
Oui. Oui, vous pouvez adhérer sur la page. Vous pouvez. Il y a plusieurs formules. Soit vous pouvez être membre actif, adhérent, on va dire, et du coup parce que vous avez une activité qui est en lien avec la création. Soit vous pouvez être membre en tant que bénévole et à ce moment-là, faut suivre l'actualité sur les réseaux sociaux. On a essayé de mettre en place une newsletter, mais tout ça prend énormément de temps et comme vous l'avez vu, on est bien occupé. Et ensuite. Ça peut être le soutien financier, voilà. Mais dans tous les cas, oui, il y a moyen de nous soutenir, soit physiquement, soit financièrement, soit en tant que créateur, soit juste par les réseaux avec des petits cœurs pour nous dire que vous êtes là, des commentaires partagés, relayés, voilà.
Ça marche. Merci beaucoup.
Et un grand merci à toutes les trois. Merci pour vos questions. C'est hyper intéressant. On va diffuser les réseaux sociaux, le site web, etc. et vos créations. Nous, on a un petit quart d'heure de pause. On se retrouve là à moins le quart pour la deuxième table ronde. À tout de suite.
Merci.
Bien, alors on va entamer cette deuxième table ronde. On a parlé dans la première table ronde, alors j'ai mis toutes mes petites notes. On a parlé juste avant de circularité, de futur de la mode. On va continuer en fait. Mais on accueille pour cette deuxième conférence plutôt trois designers qui vont vous expliquer à nouveau leur projet. Puis vous aurez, comme tout à l'heure, du temps pour leur poser vos questions. Alors, dans le désordre, je vous présente au milieu Sandrine Doll, qui est designer et fondatrice de la marque À l'infini. Ensuite, à sa droite, nous avons Rémi Renard, fondateur de la marque Éclos. Et puis, juste à côté de moi, Claire Roquette, qui est fondatrice de La Jeannette. Alors, je vais commencer par toi, Sandrine. Donc, tu es designer à l'origine et puis tu as monté cette marque qui s'appelle À l'infini, qui, au départ, réemploie donc ses ceintures. Comment on appelle ça, des ceintures de sécurité. Et que tu vas réemployer pour différentes créations. Mais ta palette créative est plus large et cette marque À l'infini vient... est-ce que tu peux tout simplement nous expliquer ta démarche, comment tu as décidé de t'engager en tant que designer dans cette question de la circularité et puis comment ça se matérialise.
Bonjour tout le monde. Alors juste une petite précision, À l'infini, c'est avant d'être une marque, c'est un laboratoire de design. On va dire que la marque, c'est la partie vitrine. C'est ce qui est un petit peu le résultat de toute une démarche. C'est les petits objets que je vais trimballer avec moi pour un petit peu prouver ce que je mets en place. Mais je suis avant tout designer produit et je fais de la conception d'objets et du conseil en conception d'objets. Donc je ne suis pas une marque à proprement parler. On va dire que je suis une marque vitrine. J'ai quelques modèles qui sont commercialisés, vendus au détail, mais je suis avant tout sur la partie vraiment créative de recherche et développement sur les matériaux et sur les objets, et moins sur la partie en interne, production, commercialisation. Voilà, je le précise juste parce que c'est une approche différente. En fait, la rentabilité d'À l'infini, ça n'est pas la vente d'objets, c'est vraiment de la prestation intellectuelle et créative. Donc ça, c'était petit aparté pour comprendre, puisque justement, là, on est après, vous serez plutôt avec des vraies marques, entre guillemets. Pardon, est-ce que tu peux juste me redire la question ?
Simplement nous expliquer ta démarche, qu'est-ce que c'est À l'infini, et puis comment tu t'es engagée comme designer dans cette question de la circularité.
D'accord. Donc je suis diplômée Bac plus 5 en design produit. J'avais choisi de faire une école en design produit qui était orientée sur l'industrie. Ça s'appelle l'ENSI Les Ateliers, c'est à Paris. C'était la méthodologie de création qui m'intéressait. Par contre, bon, je ne formulais peut-être pas aussi bien à l'époque, mais je savais que je ne souhaitais pas travailler sur la surproduction, participer à ça. Je ne souhaiterais pas travailler avec des machines, mais je souhaitais travailler à l'échelle humaine, aussi bien au niveau de la production, et donc travailler plutôt avec l'artisanat que l'industrie, et travailler en contact assez direct avec les utilisateurs ou bénéficiaires ou usagers en fonction des types de projets. Donc durant mes études en design industriel, je me suis orientée sur l'artisanat pour faire un mixte des deux. Donc je travaille depuis ce temps-là sur une échelle semi-industrielle, semi-artisanale, avec cette logique de rationalisation que peut avoir l'industrie, une logique économique, une logique de série, mais à une échelle beaucoup plus humaine, où je comprends mieux dans quoi je m'inscris et où je peux partager autour et avec les gens qui participent au projet. Donc à l'époque, je m'étais orientée sur l'artisanat en faisant des stages, puis mon mémoire de fin d'études, puis mon projet de diplôme de fin d'études au Cameroun. Ça aurait pu être un autre pays dans le monde, il s'avère que ça a été le Cameroun, mais ça m'a permis justement de me confronter à d'autres cultures, d'autres manières de penser, de vivre, et aussi de concevoir et de fabriquer. Et bon an, mal an, j'ai commencé étudiante, et puis je m'y suis installée pendant plusieurs années. De là, je suis partie vivre au Maroc pendant une quinzaine d'années. J'ai fait pas mal de missions ponctuelles en Afrique subsaharienne, plutôt francophone. C'est normal, c'est parce que ça bouge. Pardon. Et voilà, j'ai vécu et travaillé pendant 20 ans en Afrique, et ça m'a amené tout naturellement à travailler sur les déchets, parce que finalement il y a l'aspect environnemental où effectivement il y a des gros enjeux, mais ça peut être aussi une approche économique où on va prendre ce qu'on trouve autour de soi, et quand on va manquer de certaines matières neuves, ben on va prendre les matières qui sont là, qui sont usagées, qui peuvent être jetées. Je dirais que l'Afrique, c'est l'un des continents du surcyclage. On n'appelle pas forcément ça comme ça là-bas. On ne parle pas forcément de mode quand on fait des accessoires. On fait les choses. Et ça a été complètement naturel que j'en suis arrivée petit à petit à travailler sur des déchets. Donc c'était soit d'un côté des matériaux naturels, parce qu'il peut y en avoir énormément dans certaines régions, soit de l'autre des déchets d'un peu tout, d'un peu rien. Et en fait, je me suis naturellement tournée vers les déchets, mais avec une approche de design produit. Donc, j'ai appliqué en fait cette logique-là avec ma méthodologie de designer, donc en travaillant sur les usages, en travaillant sur les séries, sur les techniques, sur le style aussi, parce que je viens pas de la mode à l'origine. Moi, j'ai vraiment travaillé sur des produits fonctionnels. Des équipements de cuisine, du mobilier urbain, des luminaires, donc des choses assez pragmatiques, mais avec un sens esthétique quand même. C'est pas parce que c'est du déchet que ça doit être moche, c'est pas parce que c'est du déchet que ça doit être inconfortable. Voilà, donc j'ai une exigence que j'ai apprise dans mon école de design et que j'ai appliquée à la production via les déchets. Donc il y a des critères un petit peu plus particuliers quand on est sur du déchet. Néanmoins, la méthodologie de création peut être similaire, il faut faire vraiment attention. Donc c'est petit à petit que j'ai affiné ma démarche et que j'en suis arrivée à 2009, à ne travailler que sur les déchets. Alors plus spécifiquement les déchets souples ou semi-rigides qu'on peut transformer à travers la couture et la maroquinerie en accessoires, ce qui est le cœur de l'activité d'À l'Infini. Mais après, je reste designer généraliste. Et là, par exemple, en ce moment, je travaille pour l'agglomération de Rodez sur d'autres types de déchets, avec la filière du verre et la filière du bois, pour faire d'autres types de produits. Mais ça reste encore et toujours la même logique. Donc, je vous ai juste apporté des petits modèles. C'est des trousses de toilettes. Donc là, c'est pas du vrai accessoire de mode. Hein. C'est plus pratique. Néanmoins, ça m'arrive aussi de faire des accessoires un peu plus chic et un peu plus mode, on va dire, jusqu'à faire des parures aussi. Mais là, typiquement, on voit sur une base de ceinture de sécurité, quatre matériaux qui n'ont pas forcément grand-chose à voir. Il va y avoir des tenues de pompiers réformées que je récupère au service des pompiers de l'Hérault. Il y a de la bâche de piscine, donc c'est, là après j'ai choisi des matériaux liés au sport. La trousse transparente, c'est la partie transparente des voiles de bateau et de planches à voile. Et la bleue turquoise, c'est celle qui est la plus amusante, je trouve, c'est du tapis de yoga. Voilà, ça fait partie des matières. Quand je les ai collectées, je n'avais pas la moindre idée si j'allais pouvoir en faire quelque chose. J'étais un peu dubitative et en fait, les plus fines se cousent assez bien et ça fait des beaux volumes. Donc voilà, un mélange de quatre matières complètement différentes, toujours sur une base de ceinture sécurité. Et c'est un petit peu la manière dont je travaille. Je vais à la fois d'un côté créer des modèles, de l'autre tester des matières et je vais faire en sorte que ça se rencontre. Et puis s'il y a des matières qui ne marchent pas avec les modèles en cours, je vais créer des nouveaux modèles. Et petit à petit, le répertoire de modèles et de matériaux s'élargit. J'en suis arrivée en 4-5 ans en Occitanie à collecter une trentaine de matériaux qui, pour la plupart, viennent d'un rayon de 60 km autour de là où je suis installée. À l'ODEF, c'est entre Montpellier et Millau. Donc, ça reste des matériaux locaux. Je ne trouve pas, par exemple, de combinaison de ski. Je ne sais pas, c'est vraiment des matériaux en rapport avec mon environnement. Donc, celles du sport viennent pour la plupart de la base nautique à côté de laquelle j'habite. Et en fait, j'essaye de montrer qu'on a énormément de déchets autour de nous, pas que de la mode et du vêtement. On a des déchets qui viennent de tous les secteurs d'activité. Et en travaillant sur des déchets professionnels, j'arrive à trouver ce qu'on appelle des gisements, c'est-à-dire des tas de déchets qui sont réguliers, ce qui me permet, une fois que j'ai testé un matériau qui fonctionne bien, de pouvoir proposer quelque chose une production régulière, d'avoir un suivi, et pas à chaque fois de refaire de la R&D. Donc ça c'est le modèle un petit peu semi-industriel, où on va trouver un peu un modèle où on peut répéter les choses. Et on peut voilà, être sûr que s'il y a X tonnes du même déchet, derrière, on est en capacité d'en faire quelque chose.
Est-ce que ce sont les matériaux que tu rencontres qui t'amènent à imaginer des modèles ou est-ce que tu as envie de travailler des matériaux particuliers et tu vas essayer de les trouver ?
Alors, en design, je suis très infidèle. Chaque nouveau matériau est mon préféré, chaque nouvelle technique est ma préférée. Néanmoins, voilà, j'ai quand même un petit peu maintenant restreint mon champ d'activité pour être plus efficace, plus rapide. Donc, je ne vais pas travailler toutes les matières. Sur les matériaux souples et semi-rigides, je vais être à quand même trier et prendre ceux qui ont une certaine tenue, qui peuvent être un petit peu rigides ou en tout cas qui se tiennent bien. Dans tous les cas, il faut qu'ils soient vraiment solides parce que tout le travail de conception et de production qu'on met derrière en place, si c'est pour que l'accessoire ou le produit se détruise au bout de 3 utilisations, c'est pas la peine. Donc je vais filtrer un petit peu au début, mais finalement, comme je le disais à travers le tapis de yoga, j'en savais rien, ça s'est présenté sur mon chemin. J'ai un peu provoqué ça puisque je fais des démarches actives pour faire du sourcing voilà, dans des lieux un petit peu... on va dire décalé par rapport à mon activité, mais je ne savais pas si ça fonctionnerait. Il s'avère que ça a bien fonctionné avec une des gammes que j'avais déjà, donc je l'ai incorporée dans cette gamme-là. Néanmoins, il y a d'autres matières comme la bâche PVC qu'on retrouve. Donc pour du liner de piscine, on est sur du PVC. La partie transparente des voiles de bateau, c'est du PVC. Tous les supports de communication, les bâches de communication, c'est souvent du PVC. Donc c'est une matière qu'on retrouve dans énormément de domaines d'activité qui est tellement rigide que finalement, on peut faire d'autres modèles avec. Donc, sur ce type de matière, j'ai aussi dessiné de nouveaux modèles une fois que j'avais la matière. Donc, c'est vraiment des allers-retours. J'essaye vraiment, avant même d'appliquer un modèle, d'explorer la matière. Je fais des tests. J'appelle ça mes petits crachouillis parce que c'est moche, ça paye pas de mine, ça parle qu'à moi. Mais c'est vraiment une étape pour moi qui est fondamentale, c'est de partir de sa matière, que ça soit son toucher, sa flexibilité, son apparence, et de voir quel potentiel est là. Et j'essaye pas d'imposer mes idées géniales à la matière, j'essaie plutôt de m'en nourrir et à partir de là de la comprendre et de décliner des modèles s'il y a besoin ou de faire tout à fait des nouvelles choses à partir de ces matières-là.
Merci beaucoup. On reviendra à ton travail et en attendant on va écouter Rémi Renard, un des fondateurs de la marque Éclos, dont tu portes un sweatshirt, j'ai vu tout à l'heure. Donc la marque Éclos, c'est une marque de vêtements éco-responsables made in France. Vous regroupez une bonne partie finalement de la chaîne de valeur, puisqu'il y a le travail sur les matériaux qui sont récupérés, qui sont réemployés, et une production made in France. Ben, là, un peu la même question, comment est née cette initiative? Comment est née Eclo? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? Et puis, explique-nous aussi la démarche, Eclo, et puis ces différentes étapes. C'est quand même, il y a un choix d'avoir une vision assez globale aussi de la fabrication de la marque sur les questions environnementales et sociales.
Bonjour à tous. Alors Eclo, c'est une marque qui est née en 2018, donc ça fait maintenant 7 ans que la marque existe. Alors moi, j'ai pas du tout un parcours de designer. D'ailleurs, je me définis pas comme designer. En fait, j'avais pas du tout le pied dans le monde de l'industrie textile ni de la mode. En fait, moi, j'étais de formation en développement durable. Donc j'avais un master en développement durable et en fait j'ai eu l'envie de créer une marque de vêtements avec comme objectif de proposer des vêtements avec un minimum d'impact environnemental et social. Donc c'était vraiment mon défi. Donc avant d'imaginer à quoi allaient ressembler les vêtements, j'avais en tête d'avoir une démarche des plus éco-responsables possibles et d'avoir un minimum d'impact sur l'environnement. Donc vu que je partais de zéro, vu que j'avais pas du tout de formation dans ce milieu-là, il a fallu que je parcoure un petit peu la France pour aller rencontrer un peu tous les acteurs du métier. Donc c'était des filateurs, des tisseurs, des ateliers de confection, il y avait aussi des designers, des ennoblisseurs. Tout ce que vous, peut-être, vous connaissez déjà, vous, à travers votre formation, si on vous en parle un peu. Pour moi, l'idée était de comprendre comment un vêtement était créé de A à Z. Et surtout, étant donné que la France a connu pas mal de délocalisations durant ces 30 dernières années, de pouvoir rencontrer ces gens-là, discuter un peu de comment évoluer le métier. Et surtout, voir s'il y avait vraiment possibilité de créer des vêtements en France avec un minimum d'impact environnemental. Donc la matière, pour moi, était très importante. Il y avait beaucoup de questionnements au sujet de quelle est la matière qui pollue le moins, qu'est-ce qui est le plus local. Donc il y a eu pas mal de retournements de situation avant de lancer le projet. Et finalement, c'est à force de rencontrer pas mal d'acteurs du milieu que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de matières qui étaient produites, mais qui n'étaient pas utilisées. Donc ce n'était même pas des déchets, c'était des rouleaux de tissu à l'époque, et ça existe toujours. Hein, c'est un des problèmes de la surproduction, mais pas forcément que de la surproduction. Et on a pas mal de matières, de rouleaux de tissu inexploités qui dorment et qui peuvent même parfois être jetés. Et en fait, c'est là qu'est née l'idée de partir de cette matière-là, étant donné que les rouleaux étaient déjà créés, et du coup, il y avait toutes ces étapes qui avaient précédé qu'on évitait, quoi. Donc, ça veut dire pas, on évitait de faire pousser du coton, par exemple, ou si c'était de la matière synthétique, d'aller puiser, d'utiliser du pétrole. Il y avait du coup plus la question de la filature à se poser, ni de la teinture, ni du tissage. Donc, pour moi, c'était la solution d'aller chiner et d'aller trouver des rouleaux de tissu pour pouvoir faire des vêtements. Et forcément, d'aller confectionner ces vêtements le plus localement possible, donc en allant trouver des ateliers partenaires sur le territoire français pour créer des vêtements. Donc vous qui êtes pour la plupart en école de mode, il y a déjà une appétence pour le vêtement et le style de vêtement qui vous plaît et ce que vous voulez faire. Moi, je suis parti vraiment déjà de la problématique environnementale et sociale avant de me poser la question des vêtements, ce qui fait qu'en 7 ans, Eclo a pas mal évolué en termes de style. Les premières collections étaient il n'y avait pas vraiment un style défini parce qu'on partait de rouleaux de tissu et il fallait faire un choix dans tout ça et essayer de trouver aussi une cohérence entre pour pas non plus que ça soit un peu du tout et n'importe quoi et tout aussi en étant limité par la matière, le nombre de mètres qu'on allait récupérer sur un rouleau qui nous plaisait. Donc il y avait beaucoup de problématiques, c'était ultra enrichissant et c'était ultra challengeant d'aller pouvoir sortir une collection en essayant de trouver sans avoir d'idée de base de dire cette collection va ressembler à ça, quelle est la tendance, mais en partant de ce qu'on allait trouver donc c'était un long cheminement mais très intéressant et donc c'était la base du coup de, de, de se soucier vraiment de l'impact environnemental des vêtements. Et puis la marque a évolué depuis, donc ce qui veut dire que avant on faisait ce qu'on appelle du coup de l'upcycling ou de la revalorisation textile avec ces rouleaux de tissu qu'on rachetait. Ce qui s'est aussi pas mal développé ces dernières années, c'est-à-dire que même il y a eu des entreprises qui se sont créées et qui mettent en relation les créateurs avec les marques de vêtements, ce qui évite de prendre sa voiture et de parcourir la France pour aller trouver des tissus. Donc c'est assez chouette l'évolution qu'il y a eu autour de ça. Donc pas mal de plateformes aussi sur internet pour aller acheter des rouleaux de tissu déjà produits. Et nous, on a aussi évolué maintenant, c'est qu'on achète aussi des fils recyclés qui sont des anciens déchets ou du polyester recyclé. Et à partir de ces fibres-là, on produit du coup nos propres tissus. Donc, mais toujours avec l'idée de ne pas produire de nouvelles matières, mais de partir sur de la matière recyclée ou depuis le début, des rouleaux de tissu.
Est-ce que ce serait hyper intéressant de se dire que tu, en fait, tu as créé le design, tu travailles avec des designers, donc ils vont créer cette collection, partent en effet d'un stock existant. Finalement, ils vont devoir, donc on arrive quand même à trouver une identité de marque, je ne sais pas si on peut dire ça, à travers ce qui existe déjà. Et par ailleurs, je me pose la question du coût. Est-ce que pour une petite marque, c'est plus cher, c'est moins cher d'acheter des stocks dormants, d'acheter du fil recyclé, parce que ça a l'air d'être la solution idéale. Est-ce que pour une marque qui veut se développer, c'est plus ou moins cher d'aller récupérer ces stocks-là?
Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire que sur le papier, quand vous allez trouver une marque ou un créateur qui va vous dire on part d'un déchet pour créer un vêtement, on va pouvoir se dire peut-être que ça a été moins cher pour lui ou pour la marque de partir de là. Mais en fait, moi, c'était pas une logique économique qui m'a fait pencher pour cette solution-là il y a 7 ans. C'était vraiment... Je trouvais qu'il y avait, ça servait à rien d'aller créer de la matière si on avait déjà qui était déjà produite. Donc c'était vraiment une logique de sauver de la matière. Et en fait, moi je me suis aussi tourné vers des marques au début, même des marques françaises qui m'ont revendu des rouleaux de tissu et aussi des fabricants. Et la logique, c'était pas de négocier le prix en fait avec eux. C'était de trouver un prix juste entre cette matière. Et qu'on allait utiliser. Donc pour moi, il était primordial que tout le monde s'y retrouve dans cette démarche-là. Donc en fait, on peut trouver de la matière gratuitement. On peut trouver une matière un peu moins chère. Il peut y avoir différents business models par rapport à ça. Si c'est une manière d'économiser de l'argent sur la matière, ça peut être une idée. Mais après, il y a tellement de choses à penser autour de ça. Vu qu'on est limité par la matière, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir produire beaucoup de vêtements. Et on sait qu'une des manières aussi de pouvoir amortir le coût d'un vêtement, c'est d'en produire une certaine quantité. C'est ce qu'a très bien compris la fast fashion, malheureusement. Mais en fait, pour moi, c'est plus une démarche intellectuelle plutôt qu'une démarche économique de partir dans l'upcycling. Et d'ailleurs, quelques marques se sont arrêtées parce qu'elles n'arrivaient pas finalement à gagner de l'argent avec cette problématique-là. Donc on peut des fois avoir des bonnes opportunités, des bonnes occasions d'avoir des rouleaux, un fabricant de tissu ou une marque qui va nous revendre ou nous donner des rouleaux de tissu. Mais ce qu'il faut savoir, à partir du moment où on est dans de la petite quantité, comme une jeune marque ou un jeune créateur, la matière, elle représente son coût, mais ce qui va surtout représenter la valeur du vêtement, le coût du vêtement, c'est le coût de confection du vêtement. Et ça, si on fait fabriquer en France ou en Europe, voilà, on peut pas couper à ce coût-là. Donc, en fait, et puis maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des plateformes qui sont créées pour mettre en relation les fabricants de tissus qui auraient de la matière à revendre. Et donc, les prix ont aussi un peu augmenté derrière tout ça. Donc, c'est devenu un business. Donc, ça facilite la tâche pour faire de l'upcycling d'une certaine manière. Mais en même temps, bah, finalement, on peut se retrouver à payer le vrai coût du rouleau de tissu, voire plus cher. Il y a même des maisons des grandes maisons de mode de luxe qui revendent aussi des fins de rouleau et là on se retrouve avec des prix délirants pour de l'upcycling. Donc tout dépend du business model qu'il y a derrière, mais je dirais que c'est pas une logique économique de partir là-dessus quoi.
Tu tu expliques qu'il y a une, oui, une dimension un peu holistique, c'est-à-dire essayer de, voilà, de recouvrir toute la, la chaîne d'approvisionnement et j'ai l'impression, enfin, de fabrication, et j'ai l'impression que, en tout cas, dans le cas des clos, tu l'as vraiment pensé comme ça, un peu à 360, c'est-à-dire et la réutilisation de matière et le souci de la fabrication en France, finalement. Ça, c'était un des, aussi une des démarches essentielles pour toi de faire fabriquer en France.
Alors, pour moi, en fait, la question de faire fabriquer en France, elle ne s'est quasiment pas posée. Je sais que maintenant, avec Internet, c'est très facile. Ça pourrait être très facile pour un jeune qui veut lancer sa marque de se dire, avec Internet et tout ça, je peux très bien trouver facilement l'adresse d'une usine en Chine pour fabriquer à bas coût la collection que je veux lancer. Moi, en fait, voilà, moi, j'étais vraiment dans une démarche de proposer aux gens des vêtements où ils pouvaient se dire, voilà, ce vêtement-là, il a eu un minimum d'impact environnemental et en plus, socialement, il a permis aussi d'aider le commerce local et les fabricants français. Donc moi, dès le début, je savais que je voulais soutenir le savoir-faire local. Et donc, il était inconcevable d'aller même, ne serait-ce qu'au Portugal pour moi. Je voulais être vraiment en rapport direct et sincère avec les fabricants sur le territoire, tout en sachant qu'on avait cette problématique en France de perdre beaucoup de main-d'œuvre. Et donc, notre industrie, elle était vraiment déjà en danger il y a 7 ans. Elle l'est encore plus année après année avec l'essor de la fast fashion. Donc, il y avait vraiment ce désir de circularité. Déjà, de dire, on récupère un rouleau dans telle partie de la France et on va aller confectionner le vêtement à quelques kilomètres à côté du lieu où on a récupéré le rouleau. Donc, il y avait cette logique de... ce qui pourrait sembler compliqué pour une grande marque qui veut faire des profits, de se dire non, ça coûte trop cher, il faut qu'on fasse au moins cher. Pour moi, c'était logique d'être dans cette démarche-là, de boucler la boucle et du coup de faire en sorte de faire parcourir aussi le moins de kilomètres à cette matière qu'on avait rachetée. Et du coup, c'est aussi très enrichissant de pouvoir se dire qu'on a un rapport vraiment vrai avec les partenaires qu'on a sur le territoire. Ils nous apprennent aussi beaucoup de choses. Et il y avait j'allais dire la barrière de la langue si on veut fabriquer nos vêtements dans un pays en Asie, par exemple. Mais bon, on n'est plus comme il y a 30 ans, donc j'imagine, même si j'ai jamais été confronté à ça, mais si on veut vraiment confectionner au Portugal ou en Tunisie ou en Chine, maintenant les grands ateliers, ils ont forcément des gens au sein de l'usine qui parlent très bien la langue, le français ou l'anglais. Et donc, je pense qu'il y a une facilité aussi à pouvoir le faire. Mais voilà, encore une fois, c'est tout ce qu'on veut mettre comme valeur derrière sa marque de vêtements. Et forcément, ça rend le projet difficile parce que dans le monde dans lequel on vit, avec le nombre de marques qui existent, ça rend encore plus difficile le projet avec tous les coûts qui sont engendrés. Parce que pour le consommateur final, ça va être forcément un prix complètement différent de ce qu'il peut trouver grâce à la fast fashion, par exemple.
Ouais, c'est la difficile question des valeurs et du modèle économique. Voilà, c'est hyper intéressant. Merci Rémi. Et je vais donner la parole maintenant à Claire Rouquette. Alors toi, tu es fondatrice de La Jeannette et tu récupères des pochons d'huîtres dans l'étang de Thau pour fabriquer ce type de sac. Donc je vous engage tout à l'heure à venir jeter un œil toutes ces créations. Alors hier, on a eu Marine Olassia de Sao Textile qui, elle, récupère les filets de pêche. Alors je te pose un petit peu la même question. Comment ça vient à l'esprit d'aller récupérer des pochons d'huîtres? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dirigée vers... Tu as repéré cette ressource, finalement, et puis que tu as décidé... C'est dans ce réemploi.
Bonjour, voilà. Déjà, juste pour me présenter, donc je m'appelle Claire, j'ai 48 ans et un ado de votre âge à peu près. Donc je suis architecte des PLG, donc architecte bâtiment depuis 20 ans. J'ai mon agence depuis 20 ans. C'était un sacré exercice pour moi. Du coup, oui, voilà. Donc, ça fait 21 ans que j'ai mon agence d'archi. J'en avais marre de travailler derrière l'ordi. Et comme j'aime bien faire les choses dépendre de moi-même, être indépendante. Je me suis dit, ça serait bien de créer une activité où tu peux travailler dehors et où tu es en accord avec tes valeurs. Les valeurs du surcyclage avec les pochons et les valeurs familiales, puisque bah, sur la petite photo d'avant, bah, c'est mon père et mon frère. Voilà. Masse ostréicole. Donc moi, je suis issue d'une famille d'ostréiculteurs et de pêcheurs sur le bassin de Thau à Marseillan depuis 300 ans. Et on est la première génération à sortir de l'eau. Et donc là, ce que vous voyez, ce sont les pochons d'huîtres, ces choses noires. C'est de la maille, c'est le sac, en fait. Donc ces pochons d'huîtres servent à stocker les huîtres dans l'étang de Thau. Voilà. Donc je suis partie, je voulais travailler dehors. Et je me suis dit, bah, tiens, mon milieu, quand même, c'est l'étang de Thau. Qu'est-ce qu'on a comme déchets au bord de l'eau ? On a des cordes, on a des huîtres, on a des pochons, des choses vieillissantes qui restent à stagner derrière les masses ostréicoles au travers desquelles poussent les roseaux. Voilà. Donc je me suis dit, ça serait bien, comme je suis architecte, je suis une créative, et bien de mettre à profit cette création, cette logique sur un plus petit objet comme bâtiment. Et voilà, je suis partie là-dessus. Donc ça me permet de travailler sur mon agence d'archi 4 jours par semaine et un jour par semaine dehors, là où je veux, mais au soleil. Et faire des paniers dans la rue, donc ça c'est chouette aussi. ça ce sont les matières de base. C'est le filet de moule, l'huître, le pochon d'huître. Et avec beaucoup de temps... Donc, il y a un temps de nettoyage, de réflexion, puisque je me retrouve avec des stocks de pochons que me donnent des ostréiculteurs. Eh bien, voilà, il faut avoir l'idée. Chaque maille génère une contrainte, donc génère une forme. Et ça fait toute une collection de pochons. Donc, on est vraiment dans une matière professionnelle, un petit peu comme Sandrine. Et je la détourne, j'en fais d'un accessoire de mode. Et là, je l'ouvre un petit peu à de l'objet. Hier, j'ai livré des abat-jour dans une boulangerie et je vais faire d'autres choses encore. Je ne sais pas quoi encore, mais je vais faire d'autres choses. Parce que j'ai la matière et elle est libre.
De quoi il compose ?
Qui les fabrique ? Je ne peux pas vous dire.
Secret.
Non, c'est moi.
De quoi c'est fait en fait le pochon d'huître ? Qu'est-ce que c'est comme matière originelle ?
Pardon ? Polyéthylène.
Polyéthylène, voilà. Ok. Et donc c'est malléable ? Est-ce qu'il y a un fort travail de nettoyage, de lavage, de comment ça se passe entre la sortie de l'eau, ce sont des pochons qui ont déjà été utilisés,
ouais,
et jusqu'à la transformation en sac ?
Donc je récupère les pochons, je regarde quelles sont les parties à utiliser, je les découpe, je les nettoie aux masses ostréicoles de mes parents au Karcher, donc comme ça l'eau douce du puits va repartir dans l'étang parce qu'il faut un apport d'eau, donc ça va très bien, tout repart. Et donc je... C'était quoi déjà la question ? On oublie, hein ?
Le procédé,
je le nettoie et après je le nettoie puis je lui passe un petit peu d'huile de coco, voilà, qui n'est pas du tout locale.
Pour le rendre
un petit peu plus luisant, parce que ça reste une matière noire qui est abîmée, c'est pas joli. Voilà. Donc c'est comme un cuir, il va falloir un peu en prendre soin. Et après ça passe entre mes mains ou celles de ma mère, de mes belles-sœurs au jardin, et on travaille en famille.
Donc, par exemple, pour faire les anses,
ce sont les seules choses que j'achète, ainsi que les agrafes en galvanisé qui me permettent de fermer le pochon. Et comme je veux le minimum de déchets, je sers avec des agrafes, parce qu'il y en a pas mal qui le font avec des serflex, mais ça génère un déchet, une chute, donc j'ai pas envie de ça. Et ensuite... Donc tout, il y a un parti comme en architecture, un parti architectural, c'est-à-dire l'identité propre du projet. Qu'est-ce qui va nous guider dans tous les choix ? Mon choix, c'est de ne pas générer de déchets, donc je vais choisir l'agrafe. Et pour, la question est venue pour l'étiquette, sur qu'est-ce que j'utilise pour mettre ma marque, la Jeannette. Donc on cherche dans la benne, et bah, c'est une huître, en fait. C'est une huître qui est vraiment l'identité, voilà, la petite... qui est sur tous mes sacs. Et c'est ce que les personnes aussi adorent, parce que quand ils prennent un sac La Jeannette, en fait, ils prennent un bout du paysage, un bout d'un endroit où ils ont passé des vacances, où ils habitent. Ça, l'huître leur rappelle leur dernier repas entre amis. Et quand on achète une Jeannette, en fait, c'est autant le souvenir que le message, c'est-à-dire faire avec ce qu'on a. Là, c'est des pochons. Eh ben, ils étaient plus pochons, ils ne pouvaient plus faire pochons. Donc, ils repartent à une autre vie. Et puis peut-être qu'après, quand il sera trop abîmé, il servira à protéger le paillage des arbres. Et peut-être qu'il fera encore autre chose. Un peu à l'infini.
Ouais, donc la matière, en fait, est réutilisable. Et donc, c'est pas ça aussi, c'est parce que les pochons ont une durée de vie dans les temps.
En fait, c'est juste déchirable. Ça ne s'arrête jamais de... toujours utilisé. Voilà. Donc c'est hyper résistant à tous les chocs, ça peut se plier, reprendre sa forme, c'est trop bien.
Ouais, c'est génial. Et donc l'huître, donc de la même manière, tu récupères donc des huîtres, tu les nettoies, tu les vernis, tu les polis.
Elles sont résinées, UV au soleil, et sont des huîtres spéciales, donc sont des huîtres qui sont médaillées au Salon de l'agriculture chaque année. Je récupère les plus belles. Et je sais de choisir et des huîtres creuses et des huîtres plates pour avoir aussi une diversité et dans leur forme. Et puis les huîtres plates, sont celles qui parlent vraiment du lieu de l'étang de Thau. C'est vraiment un projet qui est hyper, hyper local. Mmh. Voilà. Parce que quand je travaille, c'est au Mas Ostre École, et quand je travaille au jardin, il est derrière le Mas Ostre École. Donc on est à 50 mètres.
Ouais, la question, où est-ce que tu fais tout ça? Est-ce que tu as besoin, pareil, de matériel, ou la résine, ça se passe là? Je pose des questions de néophyte, mais la résine, tu la passes au pinceau? Où est-ce que tu nettoies tes pochons? Où est-ce que tu les réutilises?
Tout se fait au mas, et donc mon atelier, il est tout petit, il est transportable, puisque c'est une sorte de sac où il y a mes magnagrafeuses, mes ciseaux, mes cordes. Donc je prends 4 pochons comme ça, je me mets dans un jardin au bord de l'eau, n'importe où en fait, et puis je fais mes affaires, et puis quand il fait trop froid, je rentre.
Bon, ça fait un peu rêver.
C'est du télétravail, génial quoi.
Et donc ça vient en complément ton activité d'architecte. Est-ce qu'il y a eu un lien entre l'architecture et ton métier d'architecte et je sais pas, la façon de concevoir un pochon ou les diverses formes là que tu proposes?
Ben oui, parce que forcément, ma manière de penser, c'est toujours qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai dans les bâtiments. C'est ça, on a une réhabilitation. Quels sont les éléments forts? Quels sont les éléments faibles? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je mets en place pour rendre le meilleur? Donc, ça fait des formes comme ça. J'ai eu une commande de panier à vélo. Donc, je suis partie sur le principe du seau d'incendie aux États-Unis. Le seau d'incendie, en fait, il a un fond en rond. Comme ça, il peut être qu'accroché au mur. Il ne sert qu'à ça, qu'à éteindre les feux. Et donc, j'ai dû faire un panier vélo qui devait rester, puisque c'est pour des vélos étudiants à 7. Je me suis dit, tiens, moi, je vais faire un panier à vélo qu'on ne va pas vouloir prendre. Donc, je lui fais un fond pointu. Et comme ça, il va rester. Donc, mes 6 ans d'année d'archi me servent à ça. Et là, quand j'ai dû faire des luminaires pour une boulangerie, mon œil d'architecte m'a dit « Ok, là on est sur du présentoir, là on est sur de la caisse, donc on va changer la forme des luminaires. » Donc c'est un aller-retour. Et j'ai beaucoup de clients ostréiculteurs qui me demandent aussi et des masses ostréicoles et des salles de dégustation. Donc moi, je leur demande des pochons. Donc, ça ne s'arrête pas là.
C'est un échange de bons procédés. Est-ce que certains ont acheté des créations à partir de leurs propres pochons?
Alors je les troque.
Ou tu les échanges.
Les troque, comme ça il n'y a pas d'argent.
Mmh. Encore mieux. Voilà. Génial. Merci beaucoup. Ben, je vais vous laisser à nouveau la parole. Je pense qu'il y aura plein de questions. Alors allons-y, ici puis derrière, pour nos 3 intervenants.
Bonjour, j'avais une question, c'est est-ce que vous arrivez à en vivre de vos paniers?
De l'architecture, oui, ça va. Après, de mes paniers, en fait, c'est une activité en plus. En premier, c'était pour moi me faire plaisir. Voilà. Donc, ça génère un petit revenu qui sert au plaisir, au voyage, au restaurant. Donc, il y a deux comptabilités, deux entreprises, deux sirettes. Donc, ce n'est pas en vivre. C'est en vivre. Donc, l'agence d'archi, c'est tout ce qui est alimentaire. Et ça, c'est tout le plus.
C'est pour savoir, comment vous faites pour les déchets des déchets, si vous en faites ?
Pardon, c'est une question pour tout le monde ?
Oui.
Alors moi j'essaie de réutiliser le petit bout du petit bout du petit bout, mais à la fin ça s'arrête. On ne peut plus, j'ai des chutes de corps de 20 cm, ça n'intéresse personne. Donc en fait, là, il y a une entreprise, je stocke pour l'instant, mais quand j'en aurai assez, je sais que c'est une entreprise qui peut les récupérer parce qu'elle va pouvoir les fondre et générer une énergie. Et par exemple, quand je fais les papiers cadeaux pour mes paniers, eh bien, j'utilise de la maille de filet de moule de conditionnement, je fais un nœud avec un raffia, je le colle dessus, donc c'est le déchet qui va devenir un déchet à la fin peut-être, mais il n'a pas... Il a eu une vie un peu jolie avant de partir. On essaie de reporter sa fin. Il y a ces deux temps. Il y a prolonger sa fin et puis essayer de remettre un déchet dans un endroit où il pourra être travaillé et pourra disparaître joliment. Quoi.
Je pense qu'il y a aussi un troisième temps qu'en amont, c'est d'essayer d'avoir le moins de déchets possible. Donc moi, c'est vrai que sur les modèles que je conçois, j'essaye aussi de m'adapter aux matériaux en tant que tel. Et alors, pas sur cette collection-là, mais sur une autre, j'avais travaillé sur la valorisation des chambres à air de mobilette. Et on était parti sur des accessoires de maison, coussins, vide-poche et sets de table, etc., qu'on tissait avec de la laine. Et l'une des manières d'optimiser tout ça, ça a été d'adapter les dimensions des accessoires au tissu qu'on faisait, et puis finalement aussi d'adapter ce tissu qu'on faisait aux dimensions des accessoires qu'on allait faire. Donc cet aller-retour entre les idées et la réalité qui fait qu'au final, on avait la bonne largeur de tissu par rapport aux accessoires. Alors qu'au tout début, on n'avait pas forcément pensé à ça, on était parti un peu sur plein de modèles dans tous les sens. Il fallait redécouper, il y avait plein de chutes et on en perdait et ça coûtait cher et c'était dommage pour la matière. Et à un moment donné, j'ai dit, ok, maintenant qu'on a à peu près une idée du type de produit qu'on veut faire, du type de matière qu'on est capable de réaliser à partir de ces déchets-là, on va essayer d'optimiser tout ça pour ne plus avoir de déchets. Donc ça est en amont, je dirais, du déchet concret, c'est comment faire pour ne pas le créer, quand c'est possible, hein, ça ne l'est pas toujours. Mais là, typiquement, pendant quelques mois, j'ai eu l'impression d'être comptable et non pas designer, pour compter quelle largeur rentrait, combien on en faisait, combien de temps on mettait pour découper une chambre à air, enfin voilà, voir tous les points d'intervention, essayer d'optimiser tout ça, et notamment sur la éviter le déchet. Et sinon, comme Claire, en fait, moi j'ai des grands modèles, donc quand je commence par faire ces grands modèles-là, et puis au fur et à mesure, je vais vers le plus petit modèle jusqu'au porte-clés. Donc avec les porte-clés, c'est là où j'arrive à caler les plus petits déchets. Après, il peut rester des tout petits bouts, mais il y en a assez peu. Et c'est aussi dans le choix des matières que je récupère. Je ne vais pas en récupérer des grandes quantités d'office. Je vais juste ponctionner une petite quantité pour déjà voir si je suis en capacité d'en faire quelque chose. Et puis après, je vais essayer de ne récupérer que ce dont j'ai besoin. Il n'y a pas très longtemps, je suis allée à... C'était un peu triste, c'était une marque qui s'arrêtait, qui fermait. Et la structure revendait son matériel, ses matières. Et j'y suis allée parce que c'était une marque qui avait, pareil, du matériel et des accessoires de maroquinerie. Je suis allée voir et là, il y avait une jeune créatrice qui a vu qu'il y avait certaines matières qui étaient données gratuitement ou à très bas prix. Elle a voulu tout prendre. Elle ne savait pas ce qu'elle allait faire avec. Elle ne savait pas si elle était en capacité de l'exploiter, mais elle a voulu tout prendre. Et moi, j'ai juste récupéré ce que je savais que je pouvais vraiment exploiter derrière. Voilà, il y a une économie du peu, en fait, qui fait que moins on a, moins on génère de déchets aussi.
Et puis, à une plus grande échelle, du coup, quand on fait des séries de sweatshirts à une centaine ou plus d'exemplaires, ce genre de choses, nous, depuis la dernière collection de l'an dernier, on a fait des accessoires à partir de ces déchets, en fait, de déchets. Et je ne sais pas si, Naila, tu peux me passer la banane qui est sur ma veste. Et donc, ça, typiquement, cette banane qu'on a sortie, comme les casquettes, elle est faite avec les chutes de la veste qu'on a produite et la doublure qui est à l'intérieur. Ce sont les chutes de chemise qu'on a produites. Donc voilà, on essaye d'en faire des accessoires avec toutes ces chutes de tissu qu'on pourrait jeter, mais qui peuvent aussi servir, tout simplement.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres commentaires? Oui.
Alors, ma question, c'était pour à l'infini. Vous disiez que c'est plus de la recherche. Est-ce que la recherche va servir à quelque chose derrière? C'est juste pour la marque et les objets que vous allez vendre derrière, ou c'est vraiment quelque chose qui doit servir pour d'autres entreprises derrière, ou c'est juste c'est plus réduit?
Alors, j'ai une partie de recherche un petit peu, comme on dit, dans les sciences fondamentales, c'est-à-dire que je vais un peu tout azimut. Ça me permet de continuer à me former encore et toujours. C'est vrai que j'ai expérimenté énormément de matières et c'est un peu comme une langue, quand on n'en connaît qu'une, c'est dur d'en apprendre une autre. Et puis plus on en connaît, plus c'est facile, plus on voit les différences ou les similitudes. Donc j'ai ce côté un peu boulimique de tout essayer, de manière un peu gratuite, entre guillemets, sans trop savoir où ça va m'amener. Et après, j'ai une partie très appliquée dans la mesure où je ne fais pas de la recherche pour de la recherche. Je ne suis pas plasticienne, par exemple. Moi, je ne me suis jamais sentie artiste. Il y a un côté où derrière, il faut que ça serve. Je dirais que de toute mon activité, donc ça fait à peu près 25 ans que je travaille, avec les accessoires de mode, c'est là où je suis le plus futile, entre guillemets, le plus décoratif. Moi, j'ai travaillé sur des marmites, enfin sur des choses assez terre à terre. Donc, quand même, dans mes objets actuellement, même si c'est des accessoires, il faut qu'ils soient pratiques, lavables, réparables si possible. Enfin, il y a des choses très très concrètes. Et du coup, ma recherche fondamentale, à un moment donné, elle va servir à faire de l'objet. Alors, des fois, on me pose une question vraiment spécifique. On va me dire, moi, j'ai telle matière, par exemple. Si j'avais pas rencontré Claire et que j'avais un pochon à huîtres, je dirais je vais regarder ce que je peux faire avec. Et là, je vais en arriver à des propositions d'objets. Des fois, à l'inverse, on va me dire j'ai besoin de telle fonctionnalité. Qu'est-ce que tu peux me proposer pour répondre à ça? Et là, c'est là où je vais puiser dans ce que j'ai déjà expérimenté ou refaire des recherches en complément. Mais je dirais que j'exploite à peu près tout ce que j'ai essayé. Alors, peut-être pas tout de suite. Des fois, c'est... J'ai des coups de cœur sur une matière et j'ai pas forcément tout de suite l'usage de cette matière-là. Mais à un moment donné, je vais la mettre en place et puis ça va servir. Donc pour moi, entre guillemets, oui, mais en fait, en tant que designer, je me mets au service d'eux. C'est pour ça que j'expliquais, je suis pas une marque classique, c'est-à-dire que ça, c'est la preuve concrète de ce que je propose. Mais en fait, c'est pas pour à l'infini. À l'infini, ça restera toujours des petites séries en interne. Mais l'objectif, c'est plutôt de dire, avec vos matières, on peut faire ce type de produit. Et quelque part, plus il y a de déchets qui sont valorisés, mieux c'est. Et donc, c'est là où je vais faire travailler des ateliers indépendants pour répondre à des besoins en série. Donc, on retrouve le côté un petit peu industriel. Mais si j'avais pas à travailler toutes ces matières-là, j'en arriverais pas là. Typiquement, un jour, j'étais tombée, j'ai vécu pendant une année sur un site d'architecture bioclimatique. Et le design, l'archi, on est assez proches et je suis passionnée d'archi. Et ils étaient en train de rénover une construction en bois. Et puis, il y avait une matière bizarre que je ne connaissais pas, qui ressemblait à la chambre à air. Ça s'appelle de l'EPDM. C'est une membrane qu'on utilise pour l'étanchéité, donc dans la construction bois, mais aussi dans l'agriculture pour faire des bassins. Et puis j'ai récupéré des morceaux, j'avais pas le temps, je savais pas, voilà. Et puis deux ou trois ans plus tard, je me suis dit, tiens, ça serait bien quand même que j'essaye. Alors c'était sale, c'était vieux, ça ressemblait à rien, comme souvent les matières quand je les trouve.
et puis garder les belles parties, à le laver, à le découper, etc. C'est devenu maintenant l'une de mes matières phares. Alors, j'ai mis un peu de temps en arriver là, mais j'ai vu que ça plaisait beaucoup, que ça avait beaucoup de qualité. À la base, c'est hyper pétrochimique. C'est un peu ce que je regrette dans les matières que je trouve, c'est que je trouve quasiment que des matières extrêmement pétrochimiques. Je trouve peu de matières naturelles. Par contre, une fois qu'elles sont là, elles ont le mérite d'avoir des super qualités. Et c'est pas évident à travailler. Il faut des piqueuses à double entraînement ou triple entraînement idéalement. Mais une fois que c'est cousu, bah, dans 10 ans, 20 ans, on aura toujours l'accessoire et c'est assez génial d'en arriver là. Donc voilà, en design, en fait, je trouve qu'il y a plusieurs échelles de temps, il y a plusieurs dynamiques. Ça peut paraître un peu fouillis de l'extérieur. Mais c'est pour aller vers une finalité et voilà. Donc il y a ce côté recherche fondamental et après ce côté très pragmatique où à un moment donné il va falloir trouver la bonne fermeture éclair, la bonne agrafe, le bon petit détail qui fait qu'on a un produit.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions ? Oui, devant.
Oui, bonjour. Moi, j'avais une question justement par rapport à votre métier. Du coup, vous êtes consultante pour d'autres clients. Quel est le modèle économique, du coup, vu que votre marque n'est pas la principale source de revenus, si j'ai bien compris?
Alors, mon modèle économique, il est le même depuis longtemps. La seule chose qui a changé, c'est que ça fait que 4-5 ans que je suis rentrée en France, en plus dans une région à la base où j'avais aucune attache, ni professionnelle, ni personnelle. Donc, je suis quand même encore en redémarrage. Mais le principe, c'est de travailler avec et pour les professionnels. Et donc, par exemple, typiquement, ne pas collecter des matières des particuliers parce qu'elles sont toujours changeantes. À part le jean, on n'a pas grand-chose qu'on retrouve d'une fois sur l'autre. Donc, je travaille sur des déchets professionnels. Comme je disais tout à l'heure, il y a des gisements. Et après, typiquement, mes clients, ça peut être aussi bien des entreprises que des collectivités, que des fois des associations. Mais où il y a des besoins un petit peu récurrents, génériques, on peut répondre avec un principe de série. Alors je ne vais pas être sûre de la production industrielle, ça me gêne quand finalement on en arrive à refaire de la surproduction, même si on a sauvé de la matière, mais si pour derrière c'est ressortir des centaines de milliers de pièces, y a quand même toujours le problème de la surproduction. Donc je vais rester à une échelle quand même intermédiaire. Mais voilà, typiquement cette année, j'ai fait une mission de conseil en design pour l'agglomération de Rodez, qui a un gros challenge au niveau de ses déchets, aussi bien ménagers que professionnels. Ils mettent en place énormément d'initiatives pour faire face à cette question des déchets, qui est d'abord une question économique, mais qui après pose aussi des problèmes écologiques, bien sûr. Et moi, je les ai accompagnés sur la partie professionnelle, déchets professionnels. Et la question, c'était de valoriser des déchets professionnels à travers les savoir-faire locaux pour proposer des petits objets qui sont vendus par l'office de tourisme. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais finalement, j'ai jamais deux fois le même type de projet, jamais deux fois le même type de client. C'est juste que la méthodologie et les valeurs restent les mêmes.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions ?
Personne, moi j'ai encore une question.
Encore ?
Oui, encore, désolée. Non, mais comme vous avez dit que vous étiez à l'ODEV, je voulais vous demander si la situation géographique vous a déjà posé problème du fait de l'éloignement, par exemple, avec une grande ville.
Oui et non. on est un peu au bout du monde. J'étais encore plus au but du monde à mon retour en France parce que j'étais sur le plateau du Larzac, donc à une demi-heure de l'ODEV, et je mettais 10 minutes en voiture pour arriver au premier village de 900 habitants. Donc là c'était un peu trop loin quand même. Donc oui, c'est compliqué parce que c'est vrai que quand on est une échelle semi-industrielle, on travaille plutôt avec des gros, entre guillemets. Mais il s'avère que l'ODEV est extrêmement dynamique. C'est un peu un territoire pauvre au niveau financier, mais riche en termes d'initiatives et d'idées, ce qui fait qu'il se passe énormément de choses sur place et dans les environs. Et finalement, il y a des initiatives de grande qualité qui sont en place. Il y a par exemple deux projets d'habitat participatif. Il y a deux ressourceries, une qui est dédiée aux matériaux de construction. Il y a un projet qui s'appelle Territoire zéro chômeur longue durée. C'est un nouveau projet, c'est une expérimentation au niveau social de réinsertion. En fait, c'est hyper petit, mais il se passe énormément de choses. Donc, tout mon modèle économique n'est pas viable si je me contente, entre guillemets, de travailler à l'ODEV. Mais en même temps, c'est aussi en local qu'on arrive à faire des choses. Et je suis, c'est un vrai choix implanté là. Voilà, donc ça m'empêche pas d'aller travailler à une ou deux heures de là. Je vais rarement plus loin. Mais il y a, voilà, dans les matières que je récupère, la plupart viennent vraiment des environs immédiats. Je suis à 10 minutes du lac du Salagou, j'ai plein de matières qui viennent de la base nautique du Salagou. Enfin voilà, il y a aussi une conscience aussi bien des collectivités locales que des entreprises de faire avec vraiment la dynamique locale, les ressources locales. Et moi, j'ai toujours travaillé en étant au milieu de nulle part. Donc c'est aussi ça qui me nourrit parce qu'il y a, je pense, plus d'intelligence du fait qu'il manque plein de choses et on trouve plus de solutions. Donc on crée notre propre dynamique. Donc voilà, c'est oui et c'est non. De temps en temps, j'aimerais bien que ça soit un peu moins loin, mais en même temps, je pense que c'est une vraie chance. Et qu'en plus, en termes de qualité de temps de travail, c'est génial parce que je ne suis pas parasitée par deux heures de transport par jour et de la fatigue des transports en commun ou ce genre de choses-là qui fait que à Paris, rien n'est possible. Bon, je caricature un peu, mais voilà, moi j'ai étudié à Paris, je vivais en banlieue parisienne, et rien ne me semblait possible là-bas. C'est ce qui m'a amené notamment à aller jusqu'au Cameroun. Alors qu'à l'ODEV, il y a cette richesse intellectuelle et créative qui est possible.
Merci Sandrine. Juste une dernière question, je pense, j'ai une question pour Rémi et une pour toi, Claire. On parle beaucoup du passage à l'échelle. On a cette ultra fast fashion qui nous assomme, etc. On cherche comment consommer autrement. Claire, je ne te veux pas te parler d'ultra fast fashion, mais j'ai une question. Est-ce que tu aurais envie ou est-ce que c'est bien de rester ou tu aurais envie de développer, de ne faire que du pochon d'huile ou de faire que ça prenne de l'ampleur, de diffuser finalement ton travail pour que ça, pour qu'il y ait plus de réemploi, pour qu'il y ait plus de sensibilisation aussi à travers ce type de travail, ou est-ce que ça, pour l'instant, c'est ce que tu souhaites, c'est plutôt travailler de cette matière, de cette manière, que ça reste une activité en plus, je dirais. Et Rémi, est-ce que de la même manière, on recherchait le passage à l'échelle ? Enfin, c'est des questions qu'on nous pose beaucoup. Est-ce qu'on va pouvoir industrialiser une mode responsable ? Est-ce qu'on va réussir en fait à faire en sorte qu'elle soit accessible au plus grand nombre ? C'est vraiment ça la question. Et petit à petit à transformer les modèles pour qu'on ait plus d'upcycling, plus de responsabilité. Voilà, peut-être juste vos réflexions sur cette question pour qu'on arrive à... Est-ce que c'est vraiment souhaitable ? Est-ce qu'il faut le faire ? Et comment vous vous positionnez chacun ? Je ne sais pas qui veut commencer.
Là, en fait, sur les temps en Méditerranée, on doit être deux ou trois à faire ça. Il y en a beaucoup plus sur l'océan, donc on va dire que ce produit existe. Moi, je pense que je suis la seule à le faire qu'avec du déchet ostréicole. Voilà.
Celui-là, il est mieux.
Qu'avec du déchet ostréicole pour mes paniers, donc c'est ce qui va me différencier des autres. Ben voilà, il y a tellement d'objets, c'est bien, c'est petit, ça suffit, quoi. Il n'y a pas la peine d'en avoir partout. Voilà.
Et du coup, et pour conclure, moi je fais partie des marques qui prônent le consommer moins, du coup produire moins, et forcément le modèle de la fast fashion, il est pas reproductible ici, et personne ne souhaite qu'il soit reproductible ici. En fait, avec aussi l'essor d'un côté de la seconde main, on a suffisamment déjà de vêtements déjà produits dans notre garde-robe. Et en fait, c'est juste une vision de la mode qu'on a à se réapproprier. Est-ce qu'on a vraiment besoin de suivre un peu cette tendance-là, avoir 500 vêtements chez soi et de le porter une fois, de le jeter, d'être dans tout le temps, d'en renouveler la garde-robe pour être tendance et pour suivre une espèce de frénésie. Je pense qu'on se retrouve plus certains dans une garde-robe minimaliste avec vraiment des pièces qui nous correspondent et dans lesquelles on se sent bien. Et du coup, si on favorise plutôt ça, il n'y a pas forcément besoin besoin de se poser de questions sur l'échelle, sur augmenter le volume de vêtements qu'on veut produire. C'est juste notre rapport à la mode à questionner, en fait, et à se dire est-ce que vraiment j'ai besoin d'autant de fringues et est-ce que je ne peux pas me contenter de celles que je préfère le plus. Voilà. Je pense que la seconde main déjà avec la seconde main, on peut trouver vraiment pas mal de solutions avec ce côté aussi à bas prix qui peut en contenter pas mal, quoi.
Ben, merci beaucoup pour tous les trois, c'était très riche. Merci pour vos questions. Isa, vous allez partir pour le repas. On se retrouve à 14h dans les salles. Vas-y.